De mes précédentes venues ici, j'avais dit que durant cette année, mon intention lors de mes passages n'était pas d'apporter des messages un peu disparates, mais plutôt d'apporter une série de messages tirés de l'Épître aux Hébreux. Alors, il y aura bien sûr des thèmes différents dans cette série, vous vous en êtes déjà aperçus, les personnes qui étaient là précédemment. Mais il y a un point commun de tous ces messages, c'est qu'ils font tous allusion à quelque chose de meilleur. Une meilleure espérance, une meilleure alliance avec de meilleures promesses, de meilleurs sacrifices, de meilleures possessions, une meilleure patrie, un meilleur sang, et puis Jésus supérieur aux anges, meilleur et supérieur étant en grec le même terme. L'Épître aux Hébreux excelle dans l'art de la comparaison et il présente les réalités de la nouvelle alliance, une alliance qui concerne premièrement Israël, il ne faut pas l'oublier, mais dans laquelle nous sommes inclus. Il présente les réalités de cette nouvelle alliance comme meilleure que celle qui était présente dans l'alliance qui avait été conclue avec Moïse et avec l'ensemble du peuple d'Israël. Et parmi ces meilleurs, on a déjà eu l'occasion de s'arrêter sur deux d'entre eux, une meilleure espérance et puis une meilleure alliance alliée à de meilleures promesses. Et tout naturellement, aujourd'hui, nous arrivons à de meilleurs sacrifices. Et je vous propose de lire le texte qui s'y rapporte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, depuis le verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Hébreux 9, verset 19 à 28. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que d'une part les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte et que d'autre part les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de s'offrir plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Vous avez écouté cette lecture avec attention. Et si c'est le cas, vous avez sans doute repéré deux fois le mot « sacrifice ». Une première fois au verset 23 et puis une seconde fois au verset 26. Au verset 23, il apparaît au pluriel, il est parlé de « meilleur sacrifice » et puis au verset 26, il apparaît au singulier, il est parlé que d'un seul sacrifice. Mais il n'est pas très difficile, selon le contexte, de comprendre que les meilleurs sacrifices du verset 23 correspondent en fait aux sacrifices du verset 26. Les sacrifices du verset 23 égale le sacrifice du verset 26, et le sacrifice du verset 26, c'est tout simplement le sacrifice de Jésus-Christ, le don de sa vie à la croix de Golgotha. Et par son sacrifice, Jésus a réglé la question du péché de manière définitive. Il a remplacé tous les sacrifices que les Israélites devaient offrir selon la loi de Moïse. Et il a rendu permanent ce que les Israélites cherchaient à obtenir au travers d'une de leurs fêtes annuelles, c'est-à-dire le pardon. Alors vous avez sans doute remarqué que notre texte fait allusion précisément à l'une de ces fêtes, à la fête annuelle en question. Il s'agit bien sûr de la fête du Yom Kippour, qu'on appelle aussi le jour des expiations. Cette fête avait lieu le 10e jour du 7e mois, le mois de Tishri, selon le calendrier israélite. Et durant cette fête durait en fait une journée entière, mais une journée à l'israélienne, c'est-à-dire du soir jusqu'au soir suivant. Et cette fête avait lieu dans le tabernacle au départ, et puis ensuite dans le temple, et son but était de faire expiation, d'accomplir ce qui était nécessaire pour faire l'expiation des péchés du peuple d'Israël. Expiation veut dire couvrir. Et en fait, à ce rituel, était attachée une promesse. On la trouve dans le Lévitique, chapitre 16, verset 30. On peut lire ceci. « En effet, en ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » On accomplissait tout un rituel, mais ça ne se faisait pas dans le vide. À cela était attachée une promesse, la promesse d'être purifié. Et dans ce fameux jour du Yom Kippour, le souverain, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, devait d'abord offrir des sacrifices pour lui-même, pour sa propre expiation, puis pour sa maison, et ensuite pour l'ensemble du peuple d'Israël. Mais il y a une chose qu'on relève moins souvent dans cette histoire, c'est que cette expiation ne devait pas se faire uniquement pour le peuple, mais elle devait se faire également pour le lieu de culte des Israélites. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est écrit en toutes lettres dans le Lévitique. On peut lire ceci, je lis d'abord le verset 33, Lévitique 16, verset 33. « Il fera l'expiation pour le Saint Sanctuaire. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les prêtres et pour le peuple de toute l'assemblée. » Et puis verset 16, on lit encore, « C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure au milieu de leurs impuretés. » En d'autres termes, c'est un peu curieux, mais en ce jour du Yom Kippour, il ne suffisait pas de faire l'expiation pour les personnes, mais il fallait le faire aussi pour le lieu où était rendu le culte au Seigneur. Et il y a dans le passage qu'on a lu une allusion très claire à cela, au verset 23, je relis, il est dit au début du verset, « Il était donc nécessaire d'une part que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées. » Il apparaît donc clairement que ce lieu de culte devait être purifié des impuretés commises par le peuple d'Israël. Et cela doit nous faire réfléchir. Pourquoi ? Parce que ce sanctuaire, bien qu'il était un lieu saint, pour ne pas dire très saint, était en fait contaminé par les péchés du peuple d'Israël. Et en cela, il y a une leçon très importante, je crois, à retenir pour nous. Et la leçon très importante à retenir pour nous, c'est que le mal, peu importe sous quelle forme il se présente, est contagieux. Il se répand. Et on ne sait jamais jusque vraiment où il va. Et c'est une loi qui, en fait, est inscrite dans la nature et qu'on peut observer tout simplement chaque jour de notre vie. Si, par exemple, vous prenez une pomme pourrie et puis que vous la mettez dans un panier de pommes saines, eh bien, ce ne sont pas les pommes saines qui vont assainir la pomme pourrie. C'est la pomme pourrie qui va contaminer toutes les autres. Et si vous laissez la contamination se propager, eh bien, c'est tout le panier qui va être pourri. La même chose si vous avez une dent cariée. Si vous avez une dent cariée, ce ne sont pas les dents saines qui vont soigner votre dent cariée. C'est la dent cariée qui va contaminer les autres. Raison pour laquelle c'est important de traiter le mal à la racine, en quelque sorte, pour pas qu'il ne se, pour pas qu'il ne se répande. Et on l'a bien vu dernièrement avec la pandémie dont on a tous entendu parler et vécu. C'est que si on est atteint d'un virus contagieux, bien ce n'est pas les personnes qui ne sont pas porteuses de ce virus qui vont guérir la personne malade, mais c'est celui qui est porteur d'un virus qui va contaminer les personnes saines. Et en fait, la règle est la même pour la question du péché. Le péché est contagieux. Et l'apôtre Paul le dit d'une certaine manière, il dit « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Et si on peut se poser la question suivante, si les péchés du peuple d'Israël contaminaient le lieu le plus saint de toute la terre, on peut dire, et qui était respecté comme tel, et ce n'était pas un lieu dans lequel on péchait, mais s'il était contaminé par le péché, alors on peut se demander jusqu'où le péché va. Jusqu'où il produit ses effets. Et cela devrait nous faire réfléchir de la manière suivante. C'est que, en fait, le péché, peu importe sous quelle forme il se présente, a toujours des conséquences, qu'il soit en pensée, en parole, par action ou par omission, comme dit la liturgie, ceux qui ont un arrière-plan catholique, vous avez reconnu, eh bien, il a toujours des conséquences. On a demandé un jour à un meurtrier comment il en était arrivé à commettre un meurtre. Il a dit, c'est très simple, d'abord je l'ai pensé, ensuite je l'ai dit, et puis je l'ai fait. Le mal avait pris racine peut-être petitement, mais il a augmenté, il a augmenté, il a augmenté, et puis il a fini par produire son effet. Les grandes catastrophes de l'humanité ont bien souvent un tout petit, ont leur origine dans un tout petit commencement. Je me pose la question si, par exemple, Hitler aurait pu s'en prendre aux Juifs, comme il l'a fait, si les siècles précédents, son époque, n'avaient pas été ensemencés de tout cet antisémitisme. Le gars du Moyen-Âge, peut-être des siècles avant, des siècles peut-être un peu après, qui pensait ne pas faire de mal à une mouche, mais qui, au bistrot du coin, tenait des propos antisémites, peut-être même sous le ton de la plaisanterie, ne s'apercevait sans doute pas qu'il alimentait un océan qui un jour allait déferler sur le monde avec les ravages qu'on connaît. Alors je dis bien, pas cela bien sûr pour dédouaner Hitler. Et on pourrait multiplier les exemples, mais vous comprenez bien l'idée. Et l'idée, c'est que le péché, le mal, peu importe sous quelle forme, peu importe comment il commence, eh bien, si on ne le traite pas, si on ne réagit pas par rapport à cela, eh bien, il va augmenter et il va produire à terme des effets tout à fait désastreux. Alors, j'espère que vous me comprenez bien. Mon but ce matin n'est pas de nous culpabiliser et pas non plus de nous enfermer dans... je vois que... c'est pas le but, je vous rassure, c'est pas de nous culpabiliser ou pas de nous enfermer dans une sorte de corset où on n'oserait plus rien faire de peur de pécher. On se comprend bien. Mais le but, c'est qu'on soit bien conscient qu'il y a une différence entre tolérer le mal et le combattre. Et nous sommes appelés à être de ceux qui combattent le mal, d'abord dans nos propres vies. Mais revenons à notre texte. Et notre texte nous parle et nous parlait de ces représentations des réalités célestes. Mais il ne dit pas que cela, il ajoute ceci: d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes doivent être, le soit purifiées par de meilleurs sacrifices. Alors, je viens de dire et d'appuyer mon raisonnement en disant que le mal qu'on connaît se répand et on ne sait jamais vraiment jusqu'où il va. Et puis notre texte nous parle que les réalités célestes, en fait, devraient aussi être purifiées. Alors, est-ce que ça veut dire que nos péchés, nos inconséquences, nos manquements rempliraient tout à coup le ciel? Je ne pense pas qu'il faille voir les choses comme cela. Mais ce qui est sans doute préférable de comprendre, c'est que les réalités célestes auxquelles il est fait allusion, une manière fiable, je crois, d'interpréter la chose, c'est de dire que ces réalités célestes sont en fait l'Église. Il est clair que le ciel ne va pas être contaminé par nos fautes et par nos péchés. Mais l'Église est un coin de ciel sur la terre. C'est une maison spirituelle, nous dit l'apôtre Pierre. C'est une habitation de Dieu en esprit, nous dit l'apôtre Paul. J'avais dit dans un message une fois que c'est la résidence secondaire de Dieu sur la terre, l'Église. Alors si le ciel ne peut pas être contaminé par nos fautes, par nos péchés, la résidence secondaire terrestre, elle, peut l'être par les inconséquences de ses membres. Et inévitablement, elle l'est. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est vrai que nous sommes tous pécheurs, nous péchons tous d'une manière ou d'une autre, mais du moment que nous avons la foi en Jésus, alors il y a une bonne nouvelle pour chacune et chacun d'entre nous. Et cette bonne nouvelle, c'est que le sang de Christ, son sacrifice unique, est pleinement suffisant pour nous purifier de toute faute et de tout péché, et pour purifier son Église de toute faute, de tout péché. Si les représentations des réalités célestes pouvaient être en quelque sorte décontaminées des péchés du peuple d'Israël avec les moyens de l'époque, alors à combien plus forte raison l'Église sera décontaminée de tout ce qui la rend impure par le sang de Jésus. Et ce sang a coulé une seule fois, comme je le disais au début, pour régler de manière définitive la question du péché. Maintenant, cela ne signifie pas qu'on puisse, à partir de là, se comporter n'importe comment, en disant, puisque de toute façon, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pourquoi pas se permettre un petit péché et puis demander pardon après. Mais ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans le christianisme. Les choses fonctionnent sur un autre modèle, c'est que du moment que nous avons foi en Jésus, l'apôtre Jean nous dit, bien, nous devons aussi marcher comme lui-même a marché. Et ce que nous avons à rechercher, c'est la sanctification, c'est-à-dire cette séparation d'avec le mal pour rechercher le bien. Hier, je lisais une prédication de saint Augustin, et dans cette prédication, il disait ceci: « Il est difficile de mal se conduire quand on croit comme il faut. » Alors, quand on croit comme il faut et qu'on nourrit sa foi comme il faut de la parole, il y a bien des chances pour qu'on se conduise aussi comme il faut. A contrario, si on pense de travers, c'est difficile de marcher droit. Donc, nourrissons notre pensée de la pensée de Dieu et puis les choses se mettront en marche pour pouvoir vivre et marcher selon sa volonté. Mais retenons pour nous cette bonne nouvelle. Jésus est venu dans ce monde et lui n'a jamais été contaminé par le péché. Par contre, il décontamine tous ceux qui s'approchent de lui dans la repentance et dans la foi. Il n'a jamais commis de péché, mais il pardonne les péchés. Et il ne faut pas s'étonner que l'apôtre Jean dise ceci à son propos: il est lui-même, Jésus, victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous pouvons venir à toi tel que nous sommes. Et nous te remercions parce que ta parole contient des promesses, mais elle contient aussi des avertissements. Et l'apôtre Pierre disait que ces avertissements servent à nous maintenir, à nous tenir en éveil, alors que nous puissions être de ceux qui nous tenons en éveil et qui ne se laissent pas contaminer par le mal, mais que d'une manière ou d'une autre, nous puissions le combattre, mais aussi avoir cette assurance que pour tout péché, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, parce qu'il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, comme pour ceux du monde entier. Louange et gloire à toi. Amen.